La porteuse de pain, troisième partie, chapitre 21 à 25. Étienne Castel, heureux de voir s'éloigner la fille du millionnaire, la reconduisit jusqu'à la porte de la rue où attendait la voiture et regagna son atelier. Paul Armand s'était avancé vers Lucien Labroux. « Mon cher enfant, lui dit-il d'une voix que l'émotion rendait tremblante, vous faites de moi le plus heureux des hommes, et surtout le plus heureux des pères. À partir de cette heure, je considère Mary comme hors de danger. Votre indifférence la tuait. Je la voyais lentement mourir, et malgré moi, je vous maudissais. Voyez-vous, messieurs, ajouta l'industriel en essuyant du revers de sa main de grosses larmes qui coulaient sur son visage. Je chéris mon enfant plus que tout au monde. Il n'y a qu'elle pour moi sur la terre. Elle aimait Lucien à en mourir. J'attendais que Lucien eût pitié d'elle. J'attendais qu'il se décidât à la sauver, et je me demandais s'il ne se déciderait pas trop tard. J'ai attendu bien longtemps, et Dieu sait ce que je souffrais. Je ne souhaiterais pas à mon plus cruel ennemi de souffrir autant. Mais enfin, aujourd'hui, la souffrance est passée. Je renais, je me sens revivre. Merci. » Lucien serra machinalement les mains que lui tendait le millionnaire. Il se posait très sérieusement cette question. « Suis-je endormi ou ne vais-je pas me réveiller ?» Georges Darier avait pitié de ce père, rattachant la vie de son enfant à cette union qui semblait peser à Lucien. Étienne Castel, très calme, regardait Paul Armand et se disait « Est-il vraisemblable, est-il admissible que cet homme, admiré et estimé de tous, ce père excellent, soit le dernier des misérables ?»« Non, non, je dois me tromper. » Paul Armand reprit son sang-froid. « Ce jour est un jour heureux pour moi entre tous, » fit-il. « Pardonnez à mon émotion, la joie m'étouffait. » « Je me félicite que cette joie vous soit arrivée dans mon atelier, » répliqua l'artiste. « Puisse-t-elle durer toujours ? » ajouta-t-il à voix basse. Tout en causant, Étienne Castel s'était dirigé vers la toile couverte d'une serge verte occupant le panneau central de son atelier. Georges Darier, pour changer la conversation qui avait pris une nuance de mélancolie, demanda « Est-ce que vous avez enfin terminé votre tableau, mon cher tuteur ? Vous m'avez autorisé à dire « mon tableau ». Presque, il ne me reste que quelques petits détails à mettre au point, et j'aurai fini. » Paul Armand avait relevé la tête et il écoutait. « S'agit-il d'une nouvelle œuvre que vous menez à bonne fin, mon cher artiste » dit-il. « À peu près nouvelle, mais pas tout à fait cependant. Ce qui veut dire que si j'achève maintenant ce tableau, je l'ai commencé il y a 21 ans. C'est un paysage ? Non, c'est une scène très dramatique, dont j'ai fait le croquis d'après nature à un moment bien rapproché de la mort de votre père, mon cher Lucien. » En entendant ces mots, Paul Armand tressaillit, mais d'une façon si imperceptible que l'artiste lui-même ne put remarquer ce tressaillement. « Comment cela ? » demanda le fils de Jules Labroux. « J'ai dessiné cette scène le surlendemain du crime d'Alfortville, et la femme condamnée à la réclusion comme assassin de votre père en est le personnage principal. » Étienne Castel, tout en parlant, rivait ses yeux sur le visage du grand industriel. Celui-ci restait impassible, quoiqu'un frisson passât sur sa chair. Lucien s'avança. « Jeanne Fortier est le principal personnage de ce tableau ? » répéta-t-il. « Oui, et je crois pouvoir affirmer que la ressemblance est parfaite. » En même temps, l'artiste découvrait la toile et, par conséquent, la composition décrite antérieurement par nous. Les trois visiteurs s'absorbèrent à la fois dans la contemplation de l'œuvre du maître. Étienne observait toujours le père de Mary. Il vit ses sourcils se contracter, mais cette contraction n'eut que la durée d'un éclair, et le visage du faux Paul Armand reprit son calme habituel. Le peintre poursuivit. Cette scène rappelle le moment où Jeanne Fortier, qui s'était réfugiée au presbytère de Chevry, chez l'oncle de Georges, fut arrêtée par les gendarmes que le maire du village accompagnait. « Et cet enfant ?» demanda le millionnaire du ton le plus naturel. « Cet enfant est le fils de Madame Darier, que vous voyez là, sœur de l'ecclésiastique qui se trouve ici. C'est Georges Darier, aujourd'hui votre avocat. Ce petit cheval de carton lui-même n'est point un accessoire de pure fantaisie. C'est un jouet dont Madame Darier avait fait cadeau à son fils. Ainsi, s'exclama l'ex-Jacques Garot avec un effrayant aplomb, ainsi voilà la femme qui a rendu Lucien orphelin.
Oui, monsieur. C'est un singulier hasard, convenez-en, qui l'a conduite en un endroit où vous vous trouviez vous-même et vous a permis de reproduire l'image de cette misérable.
En effet, certains hasards sont étranges. Lucien Labroux n'avait Dieu que pour la figure de Jeanne, tandis que Georges ne cessait de regarder celle de Madame Darier, qu'il croyait sa mère.
« C'est singulier !» dit Lucien tout à coup.
« Quoi donc ?» demanda l'artiste.
« Une ressemblance me frappe.
Celle de Jeanne Fortier avec une jeune fille que vous connaissez, Mademoiselle Lucie sans doute. Cette ressemblance n'a rien d'étonnant, puisque Lucie est sa fille. »
C'est d'une autre ressemblance que je parle.
Une autre?
Oui.
Je puis m'abuser d'ailleurs, car la différence d'âge est grande. Il s'agit d'une femme de 50 et quelques années.
À quelle classe appartient cette femme? Demanda vivement le grand industriel.
À la classe des travailleuses. C'est une pauvre créature honnête entre toutes, pleine de courage et d'énergie, et qui n'a certes rien de commun avec Jeanne Fortier.
Elle habite Paris?
Oui, depuis fort longtemps, je crois.
Autrefois, elle habitait à Alfortville, où elle a, m'a-t-elle dit, connu mon père.
Que faisait-elle alors?
Ce qu'elle fait aujourd'hui encore. Elle était porteuse de pain.
Et elle se nomme?
Lise Perrin.
Mais décidément, je m'abusais, et je reconnais mon erreur en regardant mieux. La ressemblance était sans doute dans mon imagination, quoique certains traits offrent une vague analogie.
Paul Armand, très préoccupé sans le vouloir paraître, se disait « Voilà une toile qui rappelle trop de souvenirs. Il faut qu'elle m'appartienne. »
Étienne Castel venait de recouvrir son œuvre.
« Ce tableau est à vendre, sans doute, » lui dit le millionnaire.
« Permettez-moi de vous demander pourquoi vous m'adressez cette question, » répliqua le peintre.
« Parce que je le trouve admirable, parce que c'est une œuvre de premier ordre qui serait l'honneur de ma galerie et que je désire l'acheter. »
« Ah ça, mais, cher monsieur Armand, » fit Étienne avec un sourire, « pour un homme qui, disiez-vous, ne se connaît point en peinture, voilà de l'enthousiasme. »
« C'est vrai, votre œuvre produit sur moi une impression profonde. Le dessin, la couleur, l'expression, tout me semble parfait. Bref, je vous achète ce tableau, quel qu'en soit le prix. »
« Il y a une difficulté, cher monsieur. »
« Laquelle ?
Le tableau ne m'appartient plus. »
Celui à qui il appartient consentirait peut-être à me le céder.
J'en doute, ou pour mieux dire, je suis certain du contraire.
Mon pupille Georges n'avait ni le portrait de sa mère, ni celui du curé Laugier, son oncle. Je lui ai donné cette toile, et je crois que pour une fortune, il ne s'en séparerait pas.
Vous pouvez en jurer hardiment, mon ami, s'écria Georges.
Je regrette vivement qu'un motif sacré m'empêche de saisir l'occasion d'être agréable à M. Paul Armand.
Mieux que personne, il est capable d'apprécier le sentiment qui me fait agir.
Je le comprends, je l'apprécie, répliqua le ci-devant Jacques Garot. Mais je n'en suis pas moins fort contrit de voir une belle œuvre m'échapper. Enfin, n'en parlons plus. Maintenant, messieurs, ne pensez-vous pas qu'en attendant l'heure du dîner, il serait bon d'aller faire un tour au bois?
Les trois hommes appuyèrent la motion de l'industriel, et juste à ce moment, le valet de chambre annonça que Mademoiselle Mary venait de renvoyer le landau.
« Voilà qui se trouve à merveille, » dit le millionnaire. « Cela nous évitera de chercher un véhicule pouvant nous contenir tous les quatre. Et nous irons prendre des apéritifs à la cascade. »
Étienne Castel avait reçu ses amis et ses visiteurs en veston d'atelier. «
Permettez-moi d'aller m'habiller plus correctement, » fit-il, « et je serai à vous. »
Tout en modifiant sa toilette, il pensait « Décidément, cet homme m'est suspect à bon droit. À 2 ou 3 reprises, j'ai vu sa physionomie changer, quoiqu'il possède sur lui-même un prodigieux empire. C'est un gredin, j'en ai la conviction absolue. Mais les preuves me manquent. Où les trouver ?»
Tandis que l'artiste s'habillait en monologuant ainsi, Paul Armand, quoique très préoccupé de ce qu'il venait de voir et d'entendre, affectait une gaieté qui trompa Lucien Labroux et Georges Darier. Il parlait haut. Il faisait des projets merveilleux pour l'avenir de Lucien et de sa fille. Il voyait l'usine d'Alfortville prête à renaître de ses cendres et voulait que, dès la semaine suivante, le fils de Jules Labroux s'occupât des plans de construction à exécuter. Le retour d'Étienne Castel coupa court à cet entretien qui mettait Lucien à la torture. Les quatre hommes quittèrent l'atelier et gagnèrent le landau bien attelé qui les attendait à la porte, le long du trottoir de la rue d'Assas, et qui les conduisit au bois de Boulogne. Rue Murillo, le dîner devait être servi à 7 heures. Dans une maison montée comme l'était celle de Paul Armand, il suffit de donner des ordres au chef de cuisine pour improviser en quelque sorte un dîner des plus fins. Or, le temps ne manquait point, non plus que les ressources de toutes sortes, et le chef avait promis de faire des merveilles en exécutant le menu dicté par Mary. Celle-ci, percée de 12 illusions, se sentait absolument heureuse. À 6h30, l'impatience avec laquelle elle attendait son mari futur, son père et ses invités, fut satisfaite. Le landau, retour du bois, entrait dans la cour de l'hôtel. Mary, le visage illuminé par les flammes de la joie intérieure, les lèvres souriantes, se tenait sur la plus haute marche du perron, prête à recevoir les nouveaux venus. Elle semblait avoir reconquis en quelques heures la moitié des forces perdues depuis le moment de son arrivée à Paris. Étienne Castel franchissait pour la première fois le seuil de l'hôtel du grand industriel. Mademoiselle Armand voulut lui montrer les pièces de réception et surtout la galerie de tableaux dont ses conseils avaient dirigé la formation. Il se prêta de bonne grâce à la fantaisie de la jeune fille et la félicita très sincèrement du goût parfait déployé par elle dans tous les aménagements intérieurs. Ce petit voyage d'exploration se terminait à peine quand le maître d'hôtel, superbe en sa tenue de diplomate ou de ministre plénipotentiaire, vint solennellement annoncer que mademoiselle était servie. Le repas fut gai, quoique d'une gaieté parfois un peu forcée, surtout en ce qui concerne Paul Armand, Lucien et Étienne. Après le dîner, on passa dans un petit salon où le café, les liqueurs, les cigares se trouvaient servis. Vers 10 heures du soir, Paul Armand fit apporter du papier et des plumes, installa Georges Darier devant une petite table, s'assit à côté de lui et lui dit « Mon cher avocat, je sollicite de votre obligeance le projet de contrat que je porterai demain à mon notaire et que nous signerons dans 15 jours. » Le jeune homme prit une plume. « Me voici prêt à officier, » fit-il avec une gravité comique. « Mais point n'est besoin de dresser un acte en bonne et due forme. Les expressions techniques du notariat peuvent d'ailleurs me faire défaut. Je vais simplement jeter des notes que vous remettrez à votre tabellion afin qu'il les encadre dans son jargon réglementaire. » « C'est cela. » « D'abord, et en première ligne, » fit observer Étienne Castel, qui fumait lentement un cigare derrière son ex-pupille, « il faut placer les noms du père de la future, ceux de la future et ceux du futur. » « Bien entendu. Voulez-vous, mon cher client, me dicter votre état civil ?» Le millionnaire dicta. « Paul Armand, fils de Césaire Armand, et de Désiré Claire Soliveau, son épouse, tous deux décédés. Né à Dijon, Côte d'Or, le 24 avril 1832, veuf de Noémie Mortimer, né aux États-Unis d'Amérique à New York, mécanicien constructeur et propriétaire, demeurant à Paris, rue Murillo. » Étienne Castel écoutait avec attention et commandait à sa mémoire d'être fidèle. « Fort bien, » dit Georges. « Maintenant, l'état civil de la future. » Mary Noémie Armand, fille de Paul Armand et de Noémie Mortimer, son épouse décédée, née à New York le 30 juillet 1864. « Parfait, au futur maintenant. » Lucien, qui croyait vivre dans un rêve et qui subissait toujours l'ascendant d'Étienne Castel, prit la parole à son tour et dicta. Jules Lucien Labroux, né à Alfortville, Seine, le 9 octobre 1855, fils de Jules Adrien Labroux et de Marie Berthier, son épouse, tous deux décédés. Voilà qui est écrit, dit l'avocat. Maintenant, veuillez m'apprendre quelles sont les clauses du contrat de mariage que vous voulez faire. Et d'abord, sous quel régime mariez-vous votre fille ?
Sous celui de la communauté, le seul qui prouve au mari une absolue confiance.
Je donne à ma fille 1 million de dots, espèces, et je reconnais à Lucien un apport d'1 million, sans compter les terrains d'Alfortville.
Cette grande fortune que vous m'offrez, monsieur, qu'ai-je donc fait pour la mériter ?
S'écria Lucien en se levant.
Ce que vous avez fait, répondit Paul Armand, vous assurez le bonheur de ma bien-aimée Mary.
N'est-ce pas tout pour moi ?
Puis il ajouta, outre ce contrat, un acte d'association sera signé entre nous, et la moitié de tous les bénéfices vous appartiendront. Ne me dites rien. Ne cherchez pas à me prouver que j'agis trop grandement avec vous. Supposez, si vous voulez, que je ne songe point à vous, mais uniquement à ma fille.
Donnez-moi la main, mon cher Lucien. Tout est convenu.
Le jeune homme prit machinalement la main du grand industriel et la trouva froide comme de la glace, mais il ne songea même pas à s'en étonner.
En vérité, monsieur, vous faites royalement les choses, dit Étienne Castel. J'en suis très heureux pour Lucien Labroux, auquel vous rendez généreusement ce qu'un misérable lui avait arraché en tuant son père.
Le ci-devant Jacques Garot, en entendant ces mots, devint très pâle, mais il se pencha brusquement vers Georges, qui écrivait toujours, et l'artiste ne put constater sa pâleur.
Voilà qui est terminé, fit le jeune avocat en déposant sa plume sur la table. À moins que vous n'ayez à m'indiquer d'autres dispositions.
Une seule.
Laquelle ?
Celle-ci. Lucien Labroux serait héritier des biens de sa femme si celle-ci mourrait sans enfant.
Inutile d'écrire cette clause, elle résulte forcément de la communauté.
Maintenant, il serait bon, je crois, d'évaluer les terrains d'Alfortville.
Mettez 200 000 francs.
Mais, monsieur, commença Lucien, ils ne valent pas.
L'industriel lui coupa la parole.
C'est écrit, dit-il. J'estime ces terrains 200 000 francs au moins, et je suis sûr de ne pas me tromper.
Georges Darrier posa de nouveau sa plume et lut à haute et intelligible voix un projet de contrat très clair et très court que le plus habile notaire n'aurait pas désavoué.
Étienne Castel écoutait, tout en examinant à la dérobée, la physionomie du millionnaire, et cette physionomie lui paraissait si calme qu'un revirement inattendu se produisait dans ses idées.
Décidément, il est impossible que je ne me sois point fourvoyé dans mes suppositions, pensait-il. Si cet homme n'était pas le vrai Paul Armand, il n'oserait agir avec une telle audace, qui le perdrait au lieu de le sauver. Cependant, si absurde que ce soit, j'éclaircirai mes doutes.
À partir de ce moment, il cessa d'être question d'affaires et la causerie devint générale. Vers 11h30, l'artiste donna le signal du départ.
« Messieurs, dit Paul Armand, n'oubliez pas que la signature du contrat aura lieu ici, d'aujourd'hui en 15. Nous comptons sur vous pour dîner, un dîner tout à fait intime, et ensuite aura lieu une grande soirée. Je vous enverrai des invitations en blanc pour vos amis. »
Mary tendit la main à Lucien en prononçant tout bas ces mots.
« À demain, n'est-ce pas ? À déjeuner ?»«
Oui, mademoiselle, répondit le jeune homme en prenant la main de Mary et en la portant à ses lèvres. Sous ce baiser, mademoiselle Armand sentit son cœur bondir. Le sang afflua violemment à ses joues. Ses yeux devinrent étincelants. Mais en même temps, une toux sèche ébranla sa frêle poitrine et arracha de ses lèvres un gémissement douloureux. Étienne, Georges et Lucien la regardèrent avec une compassion profonde. Rien n'était plus navrant, en effet, que cette jeune fille qui se croyait à deux pas du bonheur et qui ne voyait pas entre elle et ce bonheur l'infranchissable obstacle, la mort. On se sépara. Paul Armand, resté seul avec Mary, lui tendit les bras.
« Enfin, tu es heureuse, n'est-ce pas, chère mignonne ? » lui demanda-t-il.
« Oh oui, père, bien heureuse, absolument heureuse !»
répondit l'enfant dont la toux faisait trêve depuis quelques secondes.
« Ma joie est trop grande, trop intense, elle me fait mal, j'ai besoin d'un peu de repos.
Va te reposer, ma chérie, le sommeil te calmera. Les émotions si vives ne valent rien pour toi.
Mais les voilà finies, et le moment d'un paisible bonheur approche, puisque Lucien sera bientôt ton mari. Va, ma mignonne. » Le millionnaire embrassa sa fille, et prenant le brouillon du contrat rédigé par Georges Darrier, il rentra dans son appartement. Aussitôt la porte refermée derrière lui, l'expression de son visage changea comme si le masque dont il était couvert venait de se détacher.
Il se laissa tomber sur un siège. Qu'ai-je donc à redouter encore et quel nouveau danger me menace ? Murmura-t-il avec découragement. Au moment où Lucien Labroux entre dans ma famille, où j'ai tué dans son cœur son amour pour Lucie Fortier et creusé entre elle et lui un abîme infranchissable, à l'heure où son mariage avec ma fille me rend maître de lui, pourquoi ce fantôme du passé, qui se nomme Jeanne Fortier, vient-il soudainement m'apparaître ? Ce peintre connaît Jeanne. Il la connaît bien, puisqu'il a tracé d'elle une image merveilleusement ressemblante. Jeanne Fortier, évadée de sa prison, pourrait le rencontrer. Il la reconnaîtrait. Elle pourrait se trouver par lui en rapport avec Lucien, et qui sait si Lucien ne l'a pas vue déjà ? Cette femme dont il a parlé, cette porteuse de pain, cette Lise Perrin dont la ressemblance avec Jeanne l'a frappée, si c'était Jeanne elle-même, se cachant sous un faux nom. Jeanne, si près de lui, et qui pourrait d'une heure à l'autre devenir menaçante. N'aurais-je donc jamais de repos complet ? La peur troublera-t-elle donc éternellement mon sommeil ? Paul Armand quitta le siège sur lequel il s'était laissé tomber. « La peur ? » répéta-t-il. « Mais c'est de la folie. De quoi ai-je peur ? Je me nomme Paul Armand, et je possède des papiers en règle, que j'opposerai à quiconque viendrait me dire. Vous êtes Jacques Garot. Jacques Garot est mort. Un seul homme sait la vérité, c'est Ovide. Et Ovide est trop étroitement lié à moi par le crime et l'intérêt pour témoigner jamais contre moi. Allons donc, l'épouvante serait insensée. Je ne crains rien, ni personne. » En sortant de l'hôtel de la rue Murillo, où, quoi qu'il cherchât à se rassurer, le faux Paul Armand restait en proie à des angoisses qui devaient singulièrement troubler son sommeil, Lucien Labroux appuya sa main sur le bras d'Étienne Castel. « Ah, monsieur, qu'avez-vous fait ? » lui demanda-t-il d'une voix agitée. « Où m'avez-vous conduit ? » ?»« Vous refusiez d'aller, mon cher ami. Et où vous attend la fortune ? » répondit simplement l'artiste. « Mais je ne puis épouser cette enfant mourante, presque morte. » « Allons, n'exagérons rien. Mademoiselle Armand peut guérir. » « Vous savez bien le contraire. » « Elle peut guérir, » répéta le peintre sans paraître tenir compte de l'interruption. « Vous serez riche. » « Vous êtes intelligent. L'avenir est à vous. Un magnifique avenir. » « En précipitant ce mariage ainsi que vous avez à le faire, vous avez un motif. » « Sans doute. » « Un motif que vous me cachez. » Le désir d'assurer votre bonheur ne vous paraît-il pas suffisant ? Ce n'est point cette pensée-là qui vous guide. Soyez certain, mon cher enfant, que j'agis exclusivement dans votre intérêt. Ayez confiance, et je vous en prie, cessez de m'interroger. Dites-vous que, comme Georges, mon ex-pupille, vous avez en moi un ami sincère et dévoué. Suivons tous les deux notre route. Laissez-vous conduire, vous vous en trouverez bien. Nous voici arrivés en face de chez vous, je crois. « Oui, monsieur, voilà bien la maison que j'habite, » répondit Lucien. « Allez donc vous reposer, et bonne nuit. Ah, n'oubliez pas de m'apporter ou de m'envoyer dès demain la pièce que je vous ai demandée. » « Je ne l'oublierai point. » Étienne et Georges serrèrent la main de Lucien Labroux et le laissèrent rentrer chez lui. « Ma foi, mon cher tuteur, » dit l'avocat au peintre en lui prenant le bras et en s'acheminant avec lui vers une station de voiture, car ils avaient parcouru à pied la distance de la rue Murillo à la rue de Miroménil. J'avoue que moi-même, complètement désintéressé dans la question, je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. L'artiste eut un sourire. « Ah ? » fit-il. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? » Je vous ai entendu chez vous parler pour Lucien, mademoiselle Armand. Je vous ai vu vous mettre en avant près du millionnaire et solliciter au nom de votre ami la main de sa fille. « Eh bien, voilà la première énigme. Arrivons à la seconde. D'autre part, j'entends Lucien s'écrier d'un air désespéré. « Qu'avez-vous fait ? Où m'avez-vous conduit ? » Il vous harcèle de questions pour savoir quelle arrière-pensée cache votre initiative en tout ceci. Et vous nous échappez par la tangente en esquivant fort adroitement la réponse catégorique et en lui donnant des raisons qui sentent d'une lieue le mystère. Qu'est-ce que tout cela signifie ? « Mais je l'ai dit à Lucien, cela signifie « je veux son bonheur ».»« Oh, de cela je suis convaincue. »« Eh bien, j'ai fait ce qu'il m'a semblé devoir faire pour assurer ce bonheur. »«
Permettez-moi de vous le répéter, cher tuteur. L'oracle de Delphes lui-même était moins mystérieux que vous dans ses réponses. Vous marchez à un but.
Oui.
Ne pouvez-vous m'apprendre quel est ce but, à moi, le meilleur ami de Lucien ?
Je cherche l'assassin du père de ton ami, répondit l'artiste d'un ton grave, presque solennel.
Georges s'arrêta.
Je continue à ne pas comprendre, dit-il.
Vous cherchez l'assassin ? Avez-vous donc la preuve que Jeanne Fortier n'était pas coupable ?
La preuve me manque encore, mais j'ai la conviction.
Et c'est en hâtant le mariage de Lucien avec Mademoiselle Armand, que vous espérez découvrir celui qui, selon vous, aurait frappé Jules Labroux et fait condamner à sa place Jeanne Fortier innocente ?
Peut-être.
Mais qui accusez-vous donc ?
Tu vas trop vite, mon cher enfant. Je n'accuse personne.
Je cherche et je puis ne pas trouver. Mais au moins, j'aurai fait tout ce qui dépendra de moi pour arriver à un résultat.
Et vos recherches vous conduisent rue Murillo, dans la maison du millionnaire ?
Oui.
Alors, c'est Paul Armand que vous soupçonnez.
Étienne Castel fit un geste d'impatience.
Je ne soupçonne personne encore, répliqua-t-il. Combien de fois faudra-t-il te le répéter ?
Vos réticences me désolent. N'avez-vous plus confiance en moi ?
Mon cher enfant, toi qui es avocat, et de plus intelligent, tu dois savoir qu'il suffit parfois de la moindre chose pour mettre brusquement en lumière la vérité la plus obscure. Un mot, un geste, un silence, une attitude, un sourcil qui se fronce, un regard qui se dérobe, montrent tout à coup la piste vainement cherchée jusque-là. Cette piste, je crois l'avoir trouvée, mais je n'en suis pas sûre. Je crois fermement que Jacques Garot n'est point mort et que lui aussi a vécu à New York. Si cela est, Paul Armand a dû le connaître.
Mais cela n'a rien de commun avec le mariage de Lucien et de Mary.
Tous les chemins sont bons quand ils conduisent à l'endroit où on veut se rendre.
Allons, murmura Georges avec découragement. Je n'insiste plus. Gardez votre secret, mon cher tuteur. La seule chose que je désire, c'est que vous puissiez sauver cette pauvre enfant innocente, Lucie Fortier, qui pleure son rêve brisé, son amour dédaigné, et qui mourra peut-être de désespoir en apprenant le mariage de Lucien. Espérez-vous obtenir ce résultat ?
Qui vivra verra, répondit sentencieusement l'artiste, que cette formule vague n'engageait pas beaucoup. On était arrivé à une place de fiacre. Étienne Castel prit une voiture, déposa Georges rue Bonaparte et se fit conduire rue d'Assas. Le lendemain, dès le matin, son valet de chambre lui remit une enveloppe cachetée que venait d'apporter un commissionnaire. Cette enveloppe contenait le procès-verbal donné ou plutôt vendu à Ovid Soliveau par Raoul Duchemin, l'employé de la mairie de Joigny. L'artiste étudia ce procès-verbal avec beaucoup d'attention. Pour obtenir cette pièce, se dit-il après avoir longuement réfléchi, il a fallu fournir des dates et des noms précis. Sans cela, les recherches n'auraient pu se faire. Donc, Paul Armand connaissait ses noms et ses dates, puisqu'il les a cités. Voilà qui devient grave pour lui. Il n'a point quitté Paris, donc il a envoyé quelqu'un à Joigny. Et ce quelqu'un est certainement un complice à qui il ne cache rien. Voilà l'homme qu'il faut trouver. Étienne s'habilla rapidement, quitta son logis, prit le chemin du ministère de l'Intérieur et fit passer sa carte par un huissier au secrétaire particulier du ministre, qui le connaissait bien, et le reçut sur le champ avec des marques de haute déférence et de vive sympathie. Une demi-heure après, il sortait du cabinet, tenant à la main une lettre que fermait le large cachet ministériel. Il la serra dans son portefeuille et retourna rue d'Assas où l'attendait son déjeuner. Tout en déjeunant, il dit au valet de chambre qui le servait. « Prenez la plus petite de mes valises et mettez-y le strict nécessaire, en linge et en vêtements, pour une absence de 2 ou 3 jours.
« Bien, monsieur. Dois-je préparer une valise aussi pour moi ? Monsieur m'emmènera-t-il ?
Non, vous resterez ici, et à quiconque viendrait me demander, vous répondriez simplement que je suis sorti.
Même à monsieur Georges Darrier ?
À monsieur Georges Darrier comme aux autres. »
Étienne acheva de déjeuner, passa dans sa chambre, y prit quelques papiers, vérifia le contenu de sa valise, la boucla,
et donna l'ordre d'aller lui chercher une voiture. Cette voiture étant arrivée, il descendit et se fit conduire à la gare du PLM.
Après la scène qui s'était passée entre Lucie et Mademoiselle Armand, dans le salon d'essayage de Madame Augustine, la jeune ouvrière, nos lecteurs s'en souviennent, brisée par le dernier coup l'atteignant en plein cœur, et succédant à tant d'autres coups douloureux, s'était mise au lit avec une fièvre si violente que Maman Lison, la porteuse de pain, avait cru devoir aller chercher un médecin. Ce médecin avait déclaré la maladie très grave. En entendant ces mots, Jeanne Fortier s'était sentie frissonner d'épouvante. Sa fille, sa Lucie, son enfant bien-aimé, couraient un danger de mort. Ne l'aurait-elle donc retrouvée que pour la perdre? Alors commença pour elle une existence terrible, effrayante, qui semblait au-dessus des forces humaines. Le matin, elle se rendait à la boulangerie Lebray, après avoir embrassé Lucie et lui avoir administré la potion ordonnée par le médecin. Son service fini, elle revenait en toute hâte s'installer au chevet de la jeune malade, surveillant avec une indicible angoisse chacun de ses mouvements, jusqu'à l'heure où la distribution du soir la rappelait rue Dauphine. Pendant ses absences, Madame Dominique, la concierge de la maison, brave femme et très serviable, la suppléait de son mieux. Jeanne passait ses nuits entières à pleurer et à prier, ne fermant pas un œil un instant et n'ayant même point la pensée d'aller se jeter sur son lit pour y goûter un peu de repos. Enfin, au bout de 4 jours de mortelles angoisses, le docteur annonça que le danger n'existait plus et que la convalescence commençait. Jeanne put respirer enfin. Alors, elle songea au passé qui avait conduit Lucie jusqu'aux portes du tombeau. Elle pensa à ces gens qui avaient insulté, diffamé, meurtri la pauvre enfant. Elle se souvint qu'elle était allée faire une démarche près d'un avocat, près de ce Georges Darrier auquel elle avait à remettre des papiers trouvés dans une enveloppe qui portait son nom. Jeanne avait oublié tout cela pendant les jours où la vie de sa fille se trouvait en danger. Maintenant que, grâce à Dieu, le péril était passé, il fallait chercher à punir ceux qui, en révélant la condamnation jadis prononcée contre la mère, avaient fait tant de mal à la fille innocente et, après lui avoir brisé le cœur, la réduisaient à la misère. Nous avons entendu la servante de Georges Darrier répondre à la porteuse de pain que l'avocat ne serait de retour que dans 5 ou 6 jours. Jeanne Fortier s'était dit, après avoir compté les jours écoulés. « Lundi, j'irai chez M. Darrier. Je ferai tout pour venger ma fille. » Le lundi suivant, après avoir porté son pain, Jeanne rendit vivement ses comptes à M. Lebray, retourna chez elle, embrassa Lucie, se munit des papiers trouvés par elle sur le quai, près de l'Institut, et prit le chemin de la rue Bonaparte. Il était un peu plus de 10 heures quand elle sonna à la porte de l'appartement de Georges. Madeleine vint lui ouvrir. « Monsieur Darrier est-il de retour ?» demanda la porteuse de pain. « Oui, madame. C'est moi qui suis venue le soir, il y a 6 jours. Je vous reconnais bien, madame. Et je reviens aujourd'hui afin de lui parler. Pour affaire, sans doute. Oui, pour affaire. Entrez, madame. Monsieur est dans son cabinet. Je vais le prévenir. » Et Madeleine introduisit Jeanne dans le salon précédant le cabinet de l'avocat. Celui-ci, assis à son bureau, compulsait des dossiers. En franchissant le seuil du salon, Jeanne se sentit prise d'une émotion étrange. Son cœur heurtait à coups pressés les parois de sa poitrine, devenue trop étroite. Elle tremblait de tous ses membres. Madeleine frappa doucement à la porte du cabinet de son maître, entra et referma derrière elle. « Qu'y a-t-il, ma bonne Madeleine ? » lui demanda le jeune homme en levant la tête. « Monsieur, c'est une brave femme qui est venue pendant votre absence et qui revient. Elle voudrait vous consulter pour affaires. Elle ne paraît pas bien riche. Raison de plus pour ne point la faire attendre. Je vais la recevoir tout de suite. » La vieille servante sortit du cabinet. « Venez, madame, » dit-elle à Jeanne. « Monsieur Darrier vous attend. » L'émotion de Jeanne redoubla. Pourquoi ? Il lui était impossible de s'en rendre compte. Elle ne pouvait que constater son trouble intérieur sans le pouvoir attribuer à une cause quelconque. Elle entra dans le cabinet et se trouva en face de Georges Darrier, son fils. Celui-ci s'était levé. Il jeta un regard sur la visiteuse. En recevant ce regard, en voyant le visage du jeune avocat, Jeanne Fortier sentit comme un étrange frisson effleurer sa chair, en même temps que des larmes obscurcissaient ses yeux. Georges vit son embarras, qu'il attribua tout naturellement à la timidité, et voulut venir en aide à sa visiteuse, dont les vêtements annonçaient une condition très humble. « Vous désirez me parler, madame ?» lui dit-il du ton le plus bienveillant et de la voix la plus douce. La porteuse de pain éprouva comme une défaillance en entendant cette voix. Il lui fallut s'appuyer sur le dossier d'une chaise qui se trouvait à portée de sa main. C'est à peine si elle eut la force d'articuler ces mots.
« Oui, monsieur, oui, je désire vous parler. »«
Veuillez vous asseoir, » reprit Georges en désignant un siège près de son bureau. « Et dites-moi ce qui vous amène. » Jeanne fit un pas en avant et balbutia.
« Il y a quelques jours, monsieur, vous avez perdu des papiers. »«
En effet, madame, » répliqua vivement le jeune homme, « des papiers d'une très haute importance. Les auriez-vous trouvés par hasard ?»«
Je les ai trouvés, oui, monsieur. »
« Où donc ?»«
Sur le trottoir, en face de l'Institut. »«
Votre nom était écrit sur l'enveloppe. »«
Je me suis présenté ici le jour même, afin de vous les remettre, mais vous veniez de partir en voyage. »
Quelques heures auparavant, j'avais quitté Paris pour aller à Tours, et la perte de ces papiers m'a fait, bien malgré moi, reculer la plaidoirie d'un procès d'où dépendent des intérêts considérables. Jeanne tira de la poche de son tablier l'enveloppe renfermant les papiers en question, et l'attendit à Georges.
« Voici ce que vous aviez perdu, monsieur, » fit-elle.
« Assurez-vous que rien n'y manque ?» Le jeune avocat s'empressa de vérifier les pièces. Aucune ne faisait défaut. « Tout y est bien, madame, » dit-il, « et vous me rendez un service immense en me rapportant ce dossier. Vous me permettrez, n'est-ce pas, de vous remettre une récompense, celle que je fais offrir par voie d'affichage.
« Non, non, monsieur, » s'empressa de répondre Jeanne, « je n'accepterai rien. Ces papiers sont à vous, je les ai trouvés, je vous les rends, c'est mon devoir.
Il n'y a pas lieu de me donner pour cela une récompense. » Georges écoutait parler la porteuse de pain, et la voix de cette femme produisait sur lui un effet singulier. Elle éveillait dans sa mémoire un souvenir indistinct. Il lui semblait l'avoir entendu déjà, à une époque très reculée. « Je n'ose insister, madame, » dit-il. « Je craindrais de blesser une délicatesse. » Exagérée peut-être, mais devant laquelle je m'incline avec respect. Je m'empresse d'ajouter que si jamais je puis vous être utile, de quelque façon que ce soit, je serai très heureux de vous payer ma dette. Mettez-moi à contribution, je vous en prie. C'est toujours moi qui resterai votre obligé. »
« Ces bonnes paroles m'enhardissent, monsieur, » répliqua Jeanne, qui en effet se trouvait plus à l'aise en face du jeune homme. « Je vais donc prendre la liberté de vous demander un conseil. »
« Je tâcherai d'être digne de votre confiance. De quel conseil avez-vous besoin ?»«
Il ne s'agit point de moi, monsieur, mais d'une pauvre enfant orpheline et bien malheureuse. »
« Je suis prêt à l'aider de toutes mes forces, » répondit Georges, remué de plus en plus par la voix de sa visiteuse. « Comment puis-je lui être utile ?» Jeanne touchait au moment attendu par elle avec tant d'impatience depuis 6 jours. L'émotion la paralysa. Elle sentit ses idées devenir confuses.
« Mon Dieu, » bégaya-t-elle, « en venant ici, j'avais préparé ce que j'avais à vous dire. Et voilà que je ne sais plus, tout s'embrouille dans mon cerveau.
« Remettez-vous, madame, calmez-vous, rassemblez vos souvenirs, et vous vous expliquerez ensuite facilement. » Jeanne se recueillit pendant quelques secondes, puis brusquement elle demanda. « Peut-on, monsieur, sans violer la loi, reprocher à un enfant le crime de sa mère? A-t-on le droit de lui briser le cœur, d'empoisonner sa vie? De lui faire perdre son unique moyen d'existence, le travail, en révélant le passé de sa mère? « A-t-on le droit de faire cela, monsieur, sans mériter un châtiment ?» Georges regarda son interlocutrice avec autant de curiosité que d'étonnement. Puis il répondit. « C'est à coup sûr un crime que de tuer moralement une personne innocente en dévoilant ses secrets de famille. Mais ceux qui commettent ce crime, lâches entre tous, ne tombent point sous le coup de la loi.
On ne peut, même s'ils ne mentent point, leur reprocher une diffamation.
Ainsi, reprit Jeanne avec fièvre, une enfant vient au monde.
Elle a quelques mois à peine quand on lui enlève sa mère, condamnée à la réclusion pour un crime épouvantable. La petite fille, dont on ne paie plus les mois de nourrice, est mise aux enfants trouvés. Elle grandit sans qu'on lui révèle le terrible secret. Elle ignore qu'une honte imméritée pèse sur elle. Une fois élevée, on la jette dans le monde où elle travaille honnêtement pour vivre, restant pure comme les anges et digne de tous les respects. Sur sa route, elle rencontre un honnête garçon, pauvre comme elle. Ils s'aiment, ils se le disent. Le bonheur, malgré la pauvreté, leur sourit. L'avenir leur appartient. Ils vont s'unir.
Hélas, ils avaient compté sans la mauvaise chance et sans les méchants. Écoutez un peu, monsieur. Écoutez et jugez. Un industriel, un millionnaire, est père d'une fille unique. Cette fille s'éprend du fiancé de la pauvre enfant élevée à l'hospice. Le millionnaire dit au jeune homme, « Je vous offre la fortune, une grande fortune. Épousez ma fille. » Le jeune homme est un garçon loyal, désintéressé, et d'ailleurs il aime. Il refuse. La fille du millionnaire ne se tient pas pour battue, sachant le pouvoir de la richesse. Elle va trouver son humble rival et lui propose de l'argent, beaucoup d'argent, si elle consent à lui céder son fiancé et à s'en aller loin de France. Naturellement, l'offre est repoussée avec le dédain qu'elle mérite. Que font alors le père et la fille, et quel démon conduit ces misérables? Ils fouillent dans le passé, non de l'orpheline, mais de sa mère. Ils découvrent la flétrissure, et fort de cette découverte, ils vont trouver le jeune homme et lui crient « Pauvre fou! Malheureux aveugle! Celle que tu aimes et que tu veux épouser est fille de l'infâme créature qui a subi sa peine dans une maison centrale pour avoir commis le crime d'assassinat. Et celui qu'elle a tué, c'est ton père. »
Jeanne s'interrompit. Elle était haletante. La respiration lui manquait. Au bout d'une seconde, elle reprit.
« Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur ?
Non seulement le mariage est devenu impossible, mais encore des deux jeunes gens qui s'aimaient, on a fait des ennemis. Et ce n'est pas tout. Après avoir frappé la jeune fille dans son cœur et dans son âme, il fallait la frapper dans son existence matérielle. Une grande maison lui donnait du travail. On alla trouver la maîtresse de cette maison, et devant la malheureuse enfant, on lui dit « Cette fille d'une femme condamnée pour le triple crime d'assassinat, de vol et d'incendie, déshonore vos ateliers. Si vous la conservez, vos clientes vous quitteront. Ce sera la ruine dans votre industrie. Chassez-la !» Et on l'a chassée. Le désespoir alors s'est emparé d'elle. Sous la violence de ce dernier coup, elle est tombée gravement malade et vient de passer plusieurs jours entre la vie et la mort. La blessure saignante de son cœur ne se cicatrisera que si celui qu'elle aimait, qu'elle aime encore, qu'elle aimera toujours malgré tout, revient à elle. Elle souffre autant que peut souffrir une créature humaine. Et vous dites que la loi est impuissante contre les misérables qui martyrisent ainsi une enfant innocente et qui la tueront? Eh bien, si la loi est ainsi, je vous le dis, monsieur, la loi est infâme.
Jeanne se tut. Mais de qui parlez-vous donc? Demanda Georges, ému, agité, oppressé par le récit qu'il venait d'entendre.
De qui je parle? Répliqua la porteuse de pain.
Je parle de Lucie Fortier.
Je m'en doutais. Je l'avais deviné. Mais a-t-on vraiment fait ce que vous venez de me dire? Votre ami, monsieur Labrou, ne vous a-t-il donc rien raconté?
Une séparation douloureuse a eu lieu, je le sais. Mais a-t-on poussé la cruauté jusqu'à faire perdre à Lucie son travail?
On l'a poussé jusque-là.
Oh, c'est monstrueux!
Oui, n'est-ce pas? C'est monstrueux. Et on ne peut pas punir des actes pareils?
On peut les flétrir, mais non les punir.
Ainsi, on arrache à cet enfant la vie avec le travail. On l'assassine en lui prenant son pain. Et on ne peut pas rendre responsables les meurtriers.
Non, fit Georges les dents serrées.
Mais elle se meurt, la pauvre Lucie.
Voyons, monsieur, vous êtes jeune, vous devez être bon. Je lis la bonté dans vos yeux.
Trouvez quelque chose qui rende à cet enfant le bonheur. Vous êtes l'ami, le meilleur ami de monsieur Lucien. Lui-même me l'a dit.
Vous êtes le conseiller de Monsieur Armand, je le sais. Vous pouvez les voir tous les deux et les prier d'épargner Lucie. Que Mademoiselle Armand fasse rendre à Lucie la position qu'elle lui a fait perdre. Que Monsieur Lucien revienne à elle et lui pardonne une faute qu'elle n'a point commise, elle sera sauvée. La pauvre enfant n'est pas responsable du passé de sa mère. Et sa mère, d'ailleurs, pouvait être innocente. Sauvez-la, monsieur, sauvez-la. Il me semble que si j'étais à votre place, je trouverais un moyen de la sauver.
Georges regardait la porteuse de pain avec une attention dévorante. Il paraissait étudier les lignes de son visage.
« Y a-t-il longtemps que vous connaissez Mademoiselle Lucie, madame ? »
demanda-t-il.
« Non, monsieur. Vous vous nommez Lise Perrin, n'est-ce pas ? » ?»«
Oui, monsieur, et j'aime Lucie comme si elle était ma fille à moi. Pour la sauver, pour la rendre heureuse, je donnerais sans hésiter mon sang jusqu'à la dernière goutte. »
En ce moment, on frappa doucement à la porte du cabinet.
« Entrez, » dit l'avocat.
Madeleine parut.
« Monsieur, » fit-elle. « C'est quelqu'un pour monsieur. »«
Qui ?»«
Monsieur Paul Armand. »«
Lui !»
s'écria la porteuse de pain éperdue.
« C'est lui qu'il faut prier, » répliqua Georges en prenant Jeanne par la main. « C'est à lui qu'il faut demander de laisser vivre l'enfant que vous aimez. »
Et il entraîna l'évadé de Clermont dans le salon où se trouvait le faux Paul Armand. Celui-ci, en voyant paraître Georges accompagné d'une femme du peuple, fut un peu surpris. Mais sa surprise prit des proportions faciles à comprendre lorsque cette femme, qui semblait affolée, se laissa tomber à deux genoux devant lui, la tête basse, les mains étendues et suppliantes.
« Qui êtes-vous? Que me voulez-vous » demanda-t-il.
Ce fut le jeune avocat qui répondit. « Cette pauvre créature se nomme Lise Perrin, monsieur. Elle a voué une affection profonde, presque maternelle, à une jeune fille qui se meurt de désespoir. Et elle est venue ce matin me prier d'intercéder auprès de vous pour sauver cette jeune fille.
« Oui, oui, »
balbutia Jeanne, dont les sanglots éclatèrent.
« Sauvez-la !»
En entendant prononcer le nom de Lise Perrin, en écoutant la voix qui venait de parler, le millionnaire sentit une sueur froide perler sur ses tempes. Après 21 ans, Jacques Garot et la veuve de Pierre Fortier se retrouvaient en présence, mais tous les deux si changés qu'ils étaient devenus méconnaissables. En outre, l'accent américain, contracté pendant un long séjour à New York, modifiait singulièrement la voix de l'ex-contremaître. Jeanne releva la tête et vit à travers un nuage de larmes celui à qui elle demandait le salut de Lucie. La figure pâle de l'industriel, qu'encadraient des cheveux et des favoris blancs, n'éveilla dans sa mémoire aucun souvenir. Jacques, lui, du premier coup d'œil, retrouva sous les traits flétris de la porteuse de pain le visage de la belle créature qu'autrefois il avait aimée d'un amour de fauve. Il frissonna de la tête aux pieds. Pendant un instant, il se jugea perdu. Il crut que Jeanne allait le reconnaître, comme il la reconnaissait, et s'écriait «
Voilà Jacques Garot! Voilà l'assassin de Jules Labroux! Voilà l'incendiaire d'Alfortville !»
Son épouvante fut d'ailleurs de courte durée. Il comprit qu'il courait à sa perte s'il ne tenait résolument tête à l'orage grondant autour de lui. Reprenant son aplomb habituel, quoique son visage fût livide et ses lèvres tremblantes, il répondit en exagérant encore son accent étranger.
« Intercéder près de moi pour une jeune fille? La sauver? Je ne comprends pas. Que signifie cela ?»«
Cher monsieur Armand, » dit Georges, « il s'agit de Lucie Fortier. »«
De Lucie Fortier ?» répéta le millionnaire. « Eh bien, que puis-je faire pour cet enfant qui a le malheur d'être fille d'une mère flétrie par la justice ?»«
Vous pouvez lui rendre la vie, monsieur, » s'écria Jeanne. « Vous avez réduit au désespoir, à la misère, une pauvre créature qui n'est point responsable du crime qu'on impute à sa mère. Vous lui avez pris pour votre fille celui qu'elle aimait. Et votre fille lui a enlevé sa seule ressource, le travail. Lucie, frappée en plein cœur, s'éteint lentement. Vous la tuez. Que vous a-t-elle fait ? Aviez-vous le droit de fouiller dans le passé de sa mère, de l'abreuver, elle, innocente, d'humiliation et d'outrage? N'est-ce pas cruel? Votre fille va vivre heureuse et riche, et Lucie va mourir désespérée. C'est trop injuste, cela, monsieur. Ne le permettez pas. »
Le faux Paul Armand frissonnait à la fois d'impatience et de peur,
et Dieu sait s'il regrettait amèrement sa visite à Georges Darrier.
Eh ! Répliqua-t-il avec violence, que puis-je à cela, moi ? Est-ce ma faute si cette Lucie est fille d'une condamnée ?
Et vous ne trouvez pas d'autre remède à son mal que de l'insulter de nouveau ? Dit Jeanne en se relevant presque menaçante. Une inspiration diabolique traversa l'esprit de Jacques Garot.
« Je trouve que vous le prenez de bien haut, » fit-il. « On pourrait croire, savez-vous, que des liens plus étroits qu'une amitié banale vous attachent à cette fille. De quoi venez-vous me demander compte ? D'avoir obéi aux inspirations de ma conscience ? Que me reprochez-vous ? D'avoir empêché Lucien Labroux de marcher à l'abîme ? Aurais-je agi en honnête homme en le laissant épouser une malheureuse dont la mère a tué son père ? En rendant impossible ce monstrueux mariage, j'ai rempli mon devoir. J'en suis fière. Maintenant, il m'en reste un autre tout tracé, et M. Darrier m'aidera s'il le faut à l'accomplir. La façon dont vous plaidez la cause de Lucie Fortier m'a révélé votre identité. Vous n'êtes pas Lise Perrin. Vous êtes la condamnée d'Alfortville. Vous êtes l'évadée de Clermont. Vous êtes Jeanne Fortier. En entendant son nom, Jeanne se sentit chanceler. Toute frémissante, elle jeta autour d'elle un regard effaré, cherchant une issue. Jacques Garot poursuivit en s'adressant à Georges.
Ce sera rendre à la société ainsi qu'à la justice un signe à les services que de faire arrêter cette femme sur le champ, et je vais moi-même chercher les agents.
Déjà, le misérable se dirigeait vers la porte. Georges s'élança pour lui barrer le passage et lui dit
« Un moment, monsieur, je vous prie. Vous vous opposez à ce que je livre à qui de droit, cette prisonnière en rupture de geôle ?» demanda le millionnaire très surpris.
« Je m'y oppose. »«
Pourquoi ?»« Cette femme se nomme Lise Perrin. Je ne lui connais et je ne veux pas lui connaître d'autres noms. Mais fût-elle la malheureuse créature dont vous parlez, fût-elle Jeanne Fortier, elle est sous ma protection. Entrée ici librement, elle en sortira libre. Mon cabinet n'est pas une souricière. »
Puis, se tournant vers Jeanne, il ajouta « Retirez-vous, madame, retirez-vous sans crainte. Que Dieu vous conduise et vous garde. » Jeanne, tremblante d'émotion, les mains tendues vers Georges comme pour le remercier et le bénir, fit quelques pas en chancelant.
« Mais, s'écria le faux Paul Armand, c'est insensé, c'est… »
Il n'acheva pas.
« Vous êtes chez moi, monsieur, »
interrompit Georges, « et je n'admettrai de votre part aucun commentaire sur ma conduite, dont je suis seul juge.
Allez, Lise Perrin, allez en paix. »
L'évadé de Clermont se précipita sur la main de Georges, qui lui désignait la porte, et l'appuya contre ses lèvres avec une reconnaissance exaltée, puis elle s'élança dehors.